Jésus et la Samaritaine. Dieu, dans la manière de faire de Jésus, nous révèle sa tendresse à notre égard. C'est l'homme pécheur qu'il est venu rencontrer et sauver, ne l'oublions pas. La rencontre avec la Samaritaine nous en donne un exemple extraordinaire. C'est à une femme peu considérée qui vit maritalement avec une succession d'hommes que Jésus va révéler sa véritable identité. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. Je n'ai pas de mari, lui répondit la femme. Tu as bien dit, je n'ai pas de mari, lui dit Jésus, car tu as eu 5 maris, et maintenant celui que tu as n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Évangile de Jean 4, 16 à 18. Il a su parler à cette femme avec un sens, seulement ne se parlant cette révélation de sa vie privée, mais reconnaît en lui l'homme de Dieu. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Évangile de Jean 4, 19. Jésus lui révèle alors l'essence profonde de la religion, qui n'est qu'une adoration du Père. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Aussi bien, ce sont ceux-là que le Père cherche pour adorateurs. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Je sais, lui dit la femme, que le Messie va venir, celui qu'on nomme le Christ. Lorsque celui-là sera venu, il nous fera tout savoir. Évangile de Jean 4, 23-25. Et à elle, la femme aux 5 maris, celle que l'on brocarde, Jésus révèle sa véritable identité. « Je suis le Messie, lui dit Jésus, moi qui te parle. » Évangile de Jean 4, 26. Le chemin de la grâce, la Samaritaine. Fatigué par la route à l'endroit où Jean baptisait dans le Jourdain, Jésus se repose près du puits de Jacob. Ses apôtres sont montés acheter de vivres à Sichem. C'est dans ces circonstances qu'a lieu cette rencontre. Une femme de Samarie venue puiser de l'eau. Jésus surgit à l'improviste dans sa vie. Il va piquer sa curiosité, l'éveiller à la vie divine et profiter du thème de l'eau qui s'offre à lui pour l'ouvrir à la vie de l'Esprit. Il n'y parviendra que progressivement. Jésus parle premier. Il prend initiative. Il ne nous ressemble guère, car notre formalisme ne nous permet d'aborder que des gens bien. Lui demande service à cette femme dont il a déjà percé les mystères. Donne-moi à boire. Évangile de Jean 4, 7. Cette femme, cette Samaritaine s'étonne. Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme Samaritaine? Évangile de Jean 4, 9. Il y a de petites notations si pertinentes dans sa réponse. Elle a aperçu l'intérêt que Jésus lui porte, à elle qui n'est qu'une femme, c'est-à-dire un être méprisé dans la civilisation où elle vit, et que ce juif, en plus, ne dédaigne pas de parler à une femme samaritaine, à une étrangère, car les juifs n'ont pas de rapport avec les samaritains. Évangile de Jean 4, 9. Aucun racisme chez cet homme. Jésus poursuit avec avantage et l'entraîne irrémédiablement sur un autre plan. L'eau va lui servir de thème pour lui parler de la vie éternelle. « Si tu savais les dons des dieux, lui répondit Jésus, et quel est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné le puits ?» demande la femme. Et il en a bu lui-même et son fils et ses troupeaux, évangile de Jean 4, 11. Jésus lève toute ambiguïté, L'eau n'est qu'une image. Il ne s'agit pas pour lui de donner à boire l'eau d'un puits, fût-il celui de Jacob. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif à jamais. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une source d'eau jaillissant en vie éternelle. Évangile de Jean 4, 13 à 14. Non seulement l'eau qu'il propose étanche notre soif d'éternel, mais elle devient source. La vie de Dieu est communicative. Notre sol humain s'en imprègne vite, et la voilà qui réjaillit sur tous ceux qui nous entourent. La femme fait la sotte, elle ironise encore. Très bien, fini les corvées de l'eau. Mais cela sonne faux. Seigneur, lui dit la femme, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne me rende plus ici pour puiser. Évangile de Jean 4, 15. Jésus a saisi son désarroi intérieur, et brusquement, changeant de sujet, il aborde son problème. « Va, appelle ton mari et reviens ici. » Évangile de Jean 4, 16. La réponse est brève et impertinente. « Je n'ai pas de mari. Occupez-vous de ce qui vous regarde. » Parole étrange aussi, puisqu'elle même souligne que l'amour qu'elle vit n'est pas le don total de l'amour conjugal. Puis la parole qui perce l'abcès dans les droits fils de ce qu'elle même vient d'affirmer. Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as, que tu possèdes maintenant, n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Non seulement Jésus lui dévoile sa vie, mais termine par une pointe d'ironie, soulignant qu'il n'a pas été dupe de ses réponses plaisantes et très décontractées en apparence. Oui, en cela tu dis vrai. Pour une fois, tu dis ce que tu penses. La pauvre perd un peu ses moyens, sa résistance s'émousse, puis s'effondre. Seigneur, je vois que tu es un prophète. Évangile de Jean 4, 10. Elle se rattrape pourtant encore en déplaçant le centre d'intérêt de la conversation et en la ramenant à la querelle entre Juifs et Samaritains, Jérusalem ou Garizim. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Évangile de Jean 4, 19. Jésus saisit l'occasion pour ouvrir son cœur et lui donner un enseignement solide sur la religion et la prière. Celui que nous adorons, c'est le Père. Ce qu'il désire, ce n'est pas une religion formaliste, rituelle, mais un élan filial en esprit et en vérité. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Aussi bien, ce sont ceux-là que le Père cherche comme adorateurs. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Évangile de Jean 4, 21 à 24. La lumière se fait doucement. Je sais, lui dit la femme, que le Messie va venir, celui qu'on nomme Christ. Lorsque celui-là sera venu, il nous fera tout savoir. Évangile de Jean 4, 25. Je le suis, lui dit Jésus, moi qui te parle. Évangile de Jean 4, 26. Jésus révèle ainsi à cette femme son identité, nous faisant bien comprendre par là que cette révélation n'appartient à personne, qu'elle n'est que l'œuvre qu'il est venu accomplir, révéler à tout homme, à toute femme, qu'il est l'envoyé du Père. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et j'achèverai son œuvre, dira-t-il à ses disciples, qui reviennent de Sichem et le pressent à manger. Jésus est la souffrance, guérison du fils d'un fonctionnaire d'Hérode. Il y a un second miracle de Cana, moins connu que le premier, mais combien émouvant pour ceux qui broient la souffrance, car il nous révèle la tendresse de Dieu dans le geste de son fils bien-aimé à l'égard d'un père dans le désarroi. Jésus vient de traverser la Samarie, de s'entretenir avec la Samaritaine, et il parcourt la Galilée, car Jésus savait marcher. Les kilomètres ne l'effrayaient pas. Il est le type même du missionnaire qui a des jambes alertes pour porter la bonne nouvelle du royaume. Dès son arrivée en Galilée, il est reçu à bras ouverts. Sa bonté attire. D'ailleurs, les Galiléens l'ont vu agir à Jérusalem durant la fête. C'est plus qu'une réception amicale. C'est de l'enthousiasme que provoque son arrivée. On a une telle confiance en lui que dès l'annonce qu'il est en route venant de la Judée, tout le pays se met en marche vers lui avec ses malades. On court vers lui comme ce dignitaire d'Hérode Antipas dont le fils se meurt à Capharnaüm. En pleine chaleur, c'est lui qui grimpe les 32 kilomètres qui le séparent de Cana pour arriver vers la septième heure à 1h30 de l'après-midi et en plein soleil confier au prophète la santé de son fils qui va mourir. Les premiers contacts ne sont pas très encourageants. Ce pauvre père semble reçu assez fraîchement. Ne croyez-vous donc pas, à moins de voir des miracles et des prodiges? Mais cet homme ne se laisse pas démonter. Et au reproche véhément de manquer de confiance, il répond par un ordre, par un impératif, avec l'étoupée et l'audace d'un père qui voit son fils s'en aller. « Seigneur, descends avant que ne meure mon enfant. » À cet impératif de confiance répond un impératif d'amour. « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Sous les formidables impacts des mots de Jésus, sans hésiter, il reprend la route. Il descend, et voici que déjà ses serviteurs remontent à sa recherche et lui crient « Il est guéri, venez !» À quelle heure s'est-il trouvé mieux? Hier, à la septième heure, la fièvre la quitta. Évangile de Jean 4, 51 à 52. Oui, il a retenu l'heure de la tendresse de Dieu à la septième heure. Et il la redira à Jean qu'il a noté dans son évangile. L'heure de la tendresse sonne à des heures différentes pour chacun d'entre nous. Mais c'est le même Seigneur qui nous attend à l'heure de la souffrance pour nous réconforter. Venez à moi, vous tous qui peinez, et je referai vos forces. Jésus est le royaume. Changez des mentalités. Et après que Jean-Baptiste eut été livré, Jésus s'est rendu en Galilée, proclamant l'évangile de Dieu et disant, « Le temps est accompli et le règne de Dieu est proche. Faites pénitence. » Et croyez en l'Évangile. Évangile de Marc 1, 14. Jésus annonce donc le royaume de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu, et avec vigueur, par deux impératifs, il nous trace le chemin pour y parvenir. Faites pénitence et croyez en cette bonne nouvelle. L'expression « faites pénitence » est à bien comprendre le sens profond de la parole de Jésus. Il ne s'agit pas tant de pénitence physique, ce qui d'ailleurs n'est pas exclu, que d'une transformation intérieure, un changement de mentalité, le tout très exigeant, d'où l'aspect des pénitences, des luttes contre soi-même, pour prendre les idées de Jésus, les faire nôtres, croire en lui, croyez en ma bonne parole, et faire passer tout cela dans nos vies quotidiennes. C'est ainsi que nous instaurons en nous-mêmes le règne de Dieu, le royaume. D'ailleurs, le texte grec Et on ne peut plus naître. La métanoïa dont il est question signifie un changement des mentalités, ce qui a opéré dans la traduction latine un glissement en sens vers lutter contre vous-même. Penitemini, cette expression traduite en français, faites pénitence, a donné un nouveau glissement des sens vers une demande de pénitence en elle-même, sans référence à la pressante invitation de Jésus à changer nos mentalités, nos idées, et à prendre les siennes, à croire en un mot à tous les principes de l'Évangile. Tous les jours, je me surprends avec une mentalité, des idées en contradiction flagrante avec les principes de Jésus. Chaque jour, je dois écouter cette invitation du Seigneur, changer des mentalités, croire en l'Évangile et modeler ma mentalité sur la sienne. C'est cela, avant tout, le royaume de Dieu qui s'accomplit. Jésus, l'envoyé du Père, annonce la bonne nouvelle. Méditons le début de l'évangile de Luc, où Jésus lit dans la synagogue de Nazareth le passage d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, et aux aveugles qu'ils verront la lumière. Apporter aux opprimés la libération. Annoncer une année de bienfaits accordés par le Seigneur. Évangile de Luc 4, 16 à 22. Il m'a envoyé, car il est bien l'envoyé de Dieu, venu nous apporter la bonne nouvelle. Dieu est un Père. Changez vos mentalités, changez vos idées, changez vos cœurs. Entrez dans le royaume, vivez, mais de la vraie vie, de la vie éternelle. Voilà son message. Il est envoyé aux pauvres que nous sommes, car nous nous croyons très riches. Nous ne sommes pas de ce pays crotté, dit, sous-développé, mais nous sommes de la corde des nantis, des pays industrialisés, des riches empêtrés dans nos commodités. Insensés, cette nuit même, on va te demander ton âme et ce que tu as préparé, qui l'aura? Heureux les pauvres qui, grâce à lui, ont totalement changé de tournure d'esprit en face de la richesse. Il est envoyé aux prisonniers que nous sommes, prisonniers de nos faiblesses et de nos lâchetés, de nos péchés. C'est lui qui fait le péché, est esclave du péché. Il vient nous apporter la liberté de vivre selon sa parole et sa vérité. La vérité vous libérera, nous dit-il. Il est envoyé aux aveugles que nous sommes, oui, aveuglés par tous nos systèmes de pensée, libéralisme, capitalisme, socialisme, athéisme, tous les systèmes si souvent gauchis par notre cupidité et notre mépris des autres, orgueil tout simplement. Nous fabriquons des sociétés invivables, qu'elles soient des droites ou des gauches. Il suffirait d'aimer et de reconnaître lui quand il a faim, quand il a soif, quand il est sans gîte, quand il est nu, quand il est malade, quand il est prisonnier, et tout serait changé. Il est envoyé aux opprimés que notre soif de richesse, que notre désir du pouvoir et des commandements fabriquent par millions, même dans un pays comme le nôtre, car tout est relatif. Alors qu'il nous crie que la richesse de la terre est vouée au ver et à la rouille, et que la puissance des grands est toute tournée vers leur propre service. « Je suis parmi vous comme celui qui sert », souligne-t-il aux siens, si inquiet de tenir les premières places. Jésus missionnaire. Il s'installe et prêche à Capharnaüm. Jésus a quitté sa petite patrie, Nazareth, et il est venu s'établir au centre de la ville de Galilée, à Capharnaüm, ville de la mer. Il a choisi comme lieu de son apostolat une ville pleine de païens, et Matthieu lui applique ce passage d'Isaïe qui montre le Messie comme la lumière des peuples assis à l'ombre de la mort. Il vint habiter à Capharnaüm, sur les bords de la mer, dans les régions des Zabulon et des Nephtali, afin que fût accompli ce qui avait été dit par le ministère du prophète Isaïe en ces termes. Terre des Zabulon et terre de Nephtali sur le chemin de la mer, pays au-delà du Jourdain, Galilée des Gentils, Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région, erre l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Évangile de Matthieu 4, 13 à 16. Jésus a-t-il commenté ce texte d'Isaïe dans la synagogue? Ou est-ce qu'un rappel de Matthieu pour bien situer sa mission envers les plus démunis? En tout cas, le message de Jésus est un message d'espoir. On a comme l'impression que Jésus, arrivant à Capharnaüm, y reprend son enseignement de Nazareth et y poursuit son commentaire d'Isaïe annonçant la bonne nouvelle aux plus déshérités. Et il s'est rendu à Capharnaüm, et aussitôt le jour du sabbat, entrant dans la synagogue, il enseignait. Évangile de Marc 1, 21. On est de même étonné en lisant l'évangile de la fréquence de cette expression, et il enseignait. Marc 1, 21. Jésus prêche avec une autorité prodigieuse. Il est aimé du simple peuple. Et il en devint, lorsque Jésus eut achevé ses discours, que les foules étaient très étonnées de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Évangile de Matthieu 7, 28 à 29. Son discours étonne et rompt avec les ronrons spirituels des scribes. C'est une bouffée d'air frais. Le peuple est conquis, car il émane de cet homme une sécurité qui nous conduit à l'essentiel. Jésus d'ailleurs manifeste une liberté de parole qui frappe ses contemporains. Son enseignement n'est pas une énumération des commandements, des prescriptions légales, mais une doctrine de vie. Les auditeurs perçoivent très bien qu'il s'agit d'un choix profond qui explique son autorité. La foule admirait donc Jésus. Elle ne pouvait s'en défendre malgré l'opposition des gens en place. Tant sa doctrine était prenante et belle. Il ressemblait si peu à ce prêcheur des cas de conscience qu'étaient le scribe et les pharisiens. Sa doctrine était si convaincante sans être exaltée. Il la donnait avec une telle autorité et s'en dégageait une telle sécurité que l'adhésion au Christ devenait de l'enthousiasme de la part de tous ces gens du peuple. Expulsion d'un démon à Capharnaüm. Pourquoi craindre les démons? Jésus domine le démon et lui parle en maître. Jésus lui commande et il obéit. Pourquoi tant le craindre? Il y avait dans la synagogue de Capharnaüm un homme possédé de l'esprit d'un démon impur. Et il s'écria d'une voix forte, « Oh, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Évangile de Luc 4, 33 à 34. Il faut savoir de quel respect le nom divin était entouré chez les Juifs pour comprendre l'émoi suscité dans l'assistance par cette scène inattendue. Même au temple, on ne prononçait le nom divin qu'à voix basse, et ses possédés hurlaient le nom divin. C'était la consternation, l'effroi le plus complet dans la synagogue de Capharnaüm. Aussi Jésus, en faisant taire le possédé, voulut-il en premier lieu rétablir l'ordre. Et Jésus lui enjoignit et dit, « Tais-toi et sors de lui. » Et les démons l'ayant jeté au milieu, sortit de lui sans lui avoir fait aucun mal. Évangile de Luc 4, 35. Le démon a donc percé la vraie personnalité de Jésus. Il connaît l'opposition radicale qui existe entre eux deux. Jésus n'est venu que pour le perdre et lui arracher son empire sur le monde. Les démons le craignent. Jésus lui parle avec autorité. Il le chasse comme un chien qui courbe l'échine sous les bâtons et que l'on renvoie à sa niche. Tais-toi et sors de lui. Il ne lui permet pas de nuire en sa présence. Et les démons ayant jeté cet homme au milieu, sortit de lui sans lui avoir fait aucun mal. Que l'on est loin de la crainte ridicule qui inspire à des chrétiens les soi-disant agissements du démon. Baptisés, nous sommes libres face aux démons. L'empire du démon croule devant l'effort armé de la toute-puissance tendresse de Dieu. Jésus vient nous libérer de toute autorité abusive de celle des hommes comme de celle des démons. Devant lui recule l'esprit impur qui détruit l'homme en les réduisant à ses instincts. C'est l'essence de la réflexion des gens de son époque devant son action si efficace face aux démons. Et tous furent saisis de stupeur. Ils s'entretenaient entre eux disant, quelle est cette parole pour qu'il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et qu'ils sortent. Évangile de Luc 4, 36. Jésus est le malade, guérison de la belle-mère de Saint-Pierre. Méditons sur les attitudes de Jésus face à un malade qu'il rencontre au hasard de ses courses. Dans l'incident de la guérison de la belle-mère de Pierre, les trois évangélistes ont noté, chacun à leur manière, le geste qui trahit cette divine et impatiente bonté devant la maladie et les malheurs. Or, la belle-mère de Simon était prise d'une grosse fièvre et on le pria à son sujet. Évangile de Luc 4, 38. On connaît sa bonté et on lui parle de la malade. Matthieu, lui, souligne que cette maladie ne lui avait pas échappé car il savait voir. Son regard n'est jamais indifférent devant la maladie. Il voit et ses gestes trahissent les désarrois de son cœur. Il a vu la belle-mère de Pierre couchée. Il a vu son abattement et sa fièvre brûlante. Et Jésus étant venu dans la maison de Pierre, vit sa belle-mère couchée et avec de la fièvre. Évangile de Matthieu 8, 14. Les malheurs des autres ne le laissent donc pas indifférent. Et chacun des évangélistes traduit à sa manière cette amicale attention. Et se penchant au-dessus d'elle. Évangile de Luc. Et s'approchant, il la fit lever en lui prenant la main. Évangile de Marc. Et lui toucha la main et la fièvre la quitta. Évangile de Matthieu. Ses gestes, ses mains, son regard, toute sa personne trahissent son amitié devant cette femme malade. Sa puissance est au service de sa bonté. Il commanda à la fièvre qui la quitta. Et s'étant levée aussitôt, elle le servait. Évangile de Luc. 4, 39. Il n'y a pas que les paroles qui guérissent.